Super, merci.
Merci à vous. Bonjour à tous, je me trouve dans les loges du Théâtre Michel en compagnie de Benoît et Amaury qui sont actuellement à l'affiche d'une magnifique pièce que j'ai eu la chance de voir avant-hier intitulée La Machine de Turing. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, j'aimerais que vous me racontiez, surtout toi Benoît, quelle était un peu la genèse du projet. Je pense qu'un certain nombre de nos lecteurs et auditeurs ont en tête le film magnifique qui est sorti il y a 2 ans. On y reviendra tout à l'heure, qui s'appelait Imitation Game. Et le personnage en fait de Turing est un petit peu à la mode, comme d'autres mathématiciens ou scientifiques actuellement. Et je trouve qu'il y a une espèce de bouillonnement autour des scientifiques dans le milieu artistique. Et j'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment tu t'es emparé de ce personnage, comment tu as travaillé pour monter ce projet.
D'abord, l'idée d'écrire une pièce sur lui, elle est antérieure. Non seulement au film, qui date qui est sorti je crois en 14 et qui était tourné en 13, et elle est même antérieure à la réhabilitation de Turing, parce que je suis tombé, si j'ose dire, sur lui au début de l'année 2012, l'hiver 2012. En fait, je recherchais sur internet des choses autour de la pomme, de la symbolique de la pomme. Je me demande pas pourquoi, ce serait trop long à expliquer, mais. Et puis. Sur une page genre Wikipédia, tu vois, après la pomme de Newton, la pomme du péché originel ou que sais-je, j'ai vu qu'il y avait une ligne qui avait trait au logo d'Apple et qui parlait de la pomme d'Alan Turing. Donc comme je ne savais pas de ce que c'était, par envie et curiosité, par envie de culture et curiosité, j'ai cliqué sur le mot Alan Turing et une autre page s'est ouverte où j'ai découvert la vie d'un mathématicien anglais né en 12, qui avait apparemment décrypté un code secret nazi pendant la Seconde Guerre mondiale en fabriquant une machine d'abord conceptuelle puis pratique qui s'avérait être l'ancêtre de l'ordinateur, un personnage assez iconoclaste, ouvertement gay, bègue, avec une mise pas possible, une espèce de vraie originalité, une espèce de Mozart des mathématiques.
Plein d'humour
sur lui et sur le monde, plein de curiosité sur lui et sur le monde, et avec une espèce de parcours assez accompli, allant du comique au tragique, de l'héroïque au... Bref, une espèce de personnage incroyable, dont deux choses me frappent. La première, c'est qu'il a été manifestement effacé de l'histoire, suite à cette histoire de procès pour homosexualité et de castration chimique. Et d'autre part, je me dis, il y a vraiment peut-être une entreprise de réhabilitation à faire, puisque je rappelle qu'il ne l'était pas encore à l'époque, en début 2012. Et puis aussi, l'instinct de l'auteur s'est dit qu'il y avait là un personnage magnifique pour créer un objet théâtral autour de lui.
Il a un côté presque Buster Keaton, ce Turing
sur scène. Moi, oui. Alors, j'avais pas pensé à Buster Keaton, bien que j'adore Keaton. Mais pour moi, il y a, dans les personnages qu'on a déjà vus, bien que c'est toujours bizarre de faire des comparaisons, mais il y a vraiment ce côté Mozart dans le film Amadeus, donc
aussi,
la façon dont Tom Hulce le jouait, en surprenant beaucoup les gens, parce que quand on parle de Mozart, on s'attend à un petit garçon bouclé, parfait, qui fait des gammes jolies, alors que c'était une espèce de gredin qui faisait que trousser les filles.
Un punk avant l'heure.
Ouais, il avait un côté punk, voilà. Et puis, ça, c'est pour le côté un peu dingo, comme ça, et puis le côté... un peu enfant, un peu Forrest Gump, parce que Turing courait très vite, il était aussi un athlète de l'esprit, mais aussi du corps. Donc voilà, il y avait un peu Forrest Gump, un peu Mozart, et puis surtout lui-même, parce qu'il était vraiment bègue, il avait probablement une forme d'autisme d'Asperger, bien que l'expression n'était pas exactement identifiée comme ça à l'époque. On savait qu'il était toujours couvert de taches, qu'il avait une mise impossible, qu'il se baladait en pyjama avec un masque à gaz... Et qu'il était à la fois attachant et déroutant.
Brillant et fantasque.
Ouais, donc tout ça, c'est d'ores et déjà, au-delà même de la possibilité ou de l'envie de le réhabiliter ou de contribuer très modestement à sa réhabilitation, il y avait à la base un personnage sympathique, passionnant, déroutant, énigmatique, incroyablement complexe, sur lequel j'ai eu envie d'en savoir plus. Donc, deuxième étape, ça a été de trouver des éléments sur lui. Et là, problème, parce qu'en 2012, il y a encore quasiment rien. Certes, il y a eu quelques objets théâtraux non identifiés, certes, il y a eu un ou deux essais. On découvre que chez les historiens, on le connaît plutôt bien, chez les mathématiciens, on le connaît très très bien, mais c'est simplement le grand public ne le connaît pas. Mais j'arrive quand même à trouver un ouvrage de référence qui est une biographie d'un Anglais qui s'appelle Andrew Hodges, mathématicien, activiste gay assez connu, qui a écrit, il y a une quarantaine d'années maintenant quand même, une biographie où il a eu accès à la famille, aux descendants, à même à des documents, à des lettres. Donc c'est là qu'on trouve vraiment tout le matériel pour écrire. Et entre-temps, d'ailleurs, il eût fallu, je pense, s'il n'y avait eu que ça, et si le dossier Enigma n'avait pas été déclassé entre-temps, il eût fallu, je pense, acheter les droits de cette biographie pour pouvoir utiliser tout le contenu. Sauf qu'entre-temps, toutes les archives, les manuscrits, évidemment les articles, les lettres, les documents, tout ce qui a trait à Turing a été numérisé et est disponible sur un site internet incroyable où il y a ses dessins, ses cartes postales d'enfants, ses lettres à ses copains, à ses amants, les minutes du procès, son autopsie, enfin, il y a tout, tout. Donc à partir de là, j'avais tous les éléments pour écrire une pièce, il ne me restait plus qu'à y aller, ce que j'ai fait après d'ailleurs sur place où je suis allé revoir la maison où il est né, qui est devenu un hôtel à Londres, Cambridge, évidemment, qui est un endroit tellement important dans sa formation. Bletchley Park, ce fameux manoir, ils ont décodé l'énigme qui est devenu un musée où ils ont fait très récemment une petite pièce en hommage à Turing qui sent encore la peinture tellement elle est récente. Et j'ai pu même retrouver la petite maison dans le Manchester où il est mort et tout cet environnement qui était son quotidien. Et puis voilà, je peux en parler des heures, hein, donc il faut que tu m'arrêtes parce que sinon je suis parti.
Non, non, mais c'est passionnant parce que la genèse d'un projet comme celui-là est nécessairement singulière. On évoquait ça juste avant de démarrer l'interview. Moi, j'ai pour ma part beaucoup aimé le film qui lui a été consacré et la performance du comédien Cumberbatch. Ceci étant, je suis resté un peu sur ma faim malgré tout, puisque comme on l'évoquait tout à l'heure, une des composantes majeures de ce personnage, c'est quand même d'avoir été gay, d'avoir été maltraité parce qu'il était gay. Et le film le passe quasiment sous silence, se focalise en fait sur la relation qu'il a eue avec une jeune femme qui faisait partie de l'équipe pour décoder ce fameux énigma. Mais par contre, ses sentiments profonds, ses relations à ses amants, etc., ne sont pas du tout évoqués dans le film. Là, c'est un parti pris, toi, que tu as pris un peu à l'inverse, c'est-à-dire que le personnage féminin n'est qu'évoqué au tout début de la pièce et on montre beaucoup plus ce qui a été sa relation à un de ses amants en particulier, et c'est pour ça que ça nous permettra d'enchaîner après sur l'un des rôles d'Amory.
Alors, d'abord, ce personnage féminin, en effet, a existé. Elle s'appelait Joanne Clark. C'est une jeune femme très brillante. Il y a eu une espèce de coup de foudre intellectuel entre Turing et elle. Ils ont travaillé ensemble, ils travaillaient bien ensemble, il avait besoin d'elle. Et un peu par convenance, un peu parce que c'était pratique et ce que ça se faisait à l'époque, hein, tous les gays se mariaient malgré tout. Et puis même, essayer de se marier avec une femme potentiellement compréhensive avec qui. Bon. Donc c'était exactement ça, ils se sont fiancés, mais c'est pas allé plus loin. Il y a une interview qui existe de Joanne Clark, où on la voit vieille dame qui est assez touchante, où elle dit voilà, il était évident qu'il était homo, il me le disait avec ses mots. Et puis quelque part, on s'est fiancé.
Elle n'était dupe de rien d'ailleurs.
De rien du tout. Mais le film, évidemment, elle prend dans le film, qui se concentre beaucoup sur Bletchley Park, une part importante. Malgré tout, il montre bien dans le film, avec des flashbacks, qu'il a eu une espèce de fulgurance amoureuse adolescente pour un jeune homme qui s'appelait Christopher Morcom, qui, au-delà du fait que ça a dû éveiller sa sensualité, sa sexualité, est un personnage qu'il a, par l'admiration qu'il lui portait, et le désespoir qu'il a ressenti au moment de sa mort lui a donné envie d'organiser son esprit, de faire moins de tâches, de rentrer un tout petit peu dans les codes des gens pour qu'au moins son travail soit lisible et compréhensible. Et donc tout en gardant sa façon de réfléchir tellement différente, il a réussi à organiser son travail pour communiquer, se mettre un peu en communication avec le monde. Il disait que, dans une très belle lettre, il dit au fond, tout ce que j'ai fait pour qu'il soit fier, j'ai fait pour que essayer de, à travers mon esprit qui était beaucoup plus brouillon, essayer d'imaginer ce que son esprit à lui, qui était si brillant, aurait pu être s'il avait continué à vivre. Il y a quelque chose d'assez beau là-dedans, cette espèce de quête qui à un moment se mélange d'ailleurs avec la quête du cerveau électronique, parce que au fond, il cherche à reconstruire le, à comprendre et à construire le processus de la pensée. Et en faisant ça, on peut penser, oui, qu'il cherche à discuter avec Christopher.
Et à retrouver l'être perdu au point de baptiser sa machine du nom de son, compagnon perdu.
Ce qui n'est... Enfin, c'est un débat. Certains disent que c'est historique, d'autres non. C'est dans le film, je l'ai gardé, parce qu'évidemment, c'est un ressort dramatique très puissant et très beau. Mais c'est contesté, en tout cas, par certains.
Okay.
Et donc voilà, finalement, ce personnage-là de Christopher est peut-être le personnage central de sa vie. Malgré tout, comme il a disparu, il fallait bien que Turing fraye avec les autres, des amis et des amants, puisqu'il a toujours cherché à assumer et à vivre sa sexualité. Et donc, dans la pièce, je trouvais que c'était intéressant, au-delà de ce Christopher qui est là un peu en filigrane permanent, qu'il soit confronté à trois hommes. Un qui va être un peu un rival, enfin celui qui l'engage pour décoder l'énigma, un qui va être son partenaire, son petit ami, mais qui va aussi paradoxalement précipiter sa chute, et puis ce policier qui a existé, le rôle est historique, mais dont l'histoire d'amitié est vraiment imaginaire, mais qui, selon moi, emmène un peu le public par la main pour aller à la rencontre de Turing, enfin, pour que le public fasse un peu le chemin que ce personnage qui s'appelle Michael Ross fasse. Alors, et c'est Amaury qui joue les trois.
Absolument, c'est ce que j'allais dire. Donc, une autre différence majeure, je trouve, entre votre création et puis le film. Le film est avant tout, on va dire, axé sur la dimension historique, sur ce qui s'est passé autour de cette recherche à décoder Enigma et comment, finalement, ça a pu avoir un impact majeur sur le sort et l'issue de ce conflit.
Ouais.
La pièce, elle fait la part belle aux relations interpersonnelles et aux sentiments que les différents personnages peuvent éprouver. Et, comme on le disait tout à l'heure, donc plutôt sur les relations, en l'occurrence masculines. Et c'est là qu'Amaury réussit une jolie performance de changer de chemise, de pull, de veste 18 fois dans la pièce pour incarner les trois autres personnages masculins qui sont finalement un miroir intéressant pour le personnage de Turing lui-même. Amaury, comment ça se passe tous les soirs ?
Ça se passe très très bien. En fait, c'est drôle parce que on dit souvent que les planètes sont bien alignées autour de ce spectacle, et c'est vrai. Benoît parle souvent du fait que donc ce soit le même comédien qui fasse les mêmes personnages. À la base, c'était une espèce de contrainte presque de production, oui. C'est-à-dire que c'était plus simple de faire un spectacle avec deux comédiens.
Qu'avec six, oui.
Voilà, c'était efficace. Et en fait, ça, cette contrainte est devenue une force énorme, parce qu'ensuite, Benoît a nourri cette idée-là en se disant que pourquoi pas, dans le souvenir de Turing, tous les personnages de sa vie, tous les hommes de sa vie ont le même visage. Et puis ensuite, on s'est aperçu que ça marchait très bien, ça participe effectivement de cette narration un peu... un peu folle qui va vite.
Et ce qui est aussi une particularité, c'est que, en tout cas moi je l'ai perçu comme tel, il y a presque une espèce de confusion ou de fusion des personnages qui sont face à Turing. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun de ces personnages qui soit vraiment blanc ou noir, méchant ou gentil. Et ils finissent par se fondre un peu. Alors j'imagine que c'est aussi cette sensation qu'on éprouve parce que tu incarnes toi-même les trois personnages sans essayer de te grimer totalement et qu'on ne te reconnaisse pas entre les différents personnages. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti.
Oui, en fait, j'ai l'impression que c'était important que... en fait, Benoît n'a pas voulu sauver entièrement le personnage de Turing, et voulait aussi montrer que c'était quelqu'un qui était inconséquent par moment. On voit Hugh Alexander qui s'énerve sur lui en disant « Mais est-ce que tu as une idée de combien de soldats sont morts aujourd'hui ?» L'autre, il est parti faire un footing, quoi. Et lui, ça la rend dingue. D'un autre côté, il y a Arnold Murray, donc il y a aussi... voilà, il y a les trois colères un peu comme ça des personnages. Mm-hmm. Arnold Murray qui s'énerve sur lui parce qu'il n'arrive pas à avoir une relation normale avec lui. Il est tout le temps en train de chipoter sur des trucs, tu m'as piqué 5 balles ou machin, est-ce que c'est vrai ou pas, on n'en sait rien, mais en tout cas Murray s'énerve à un moment de dire mais qu'est-ce qui va pas avec toi, quoi. Mmh. On est là, on se réveille le matin, ça s'est bien passé cette nuit, je te demande si tu veux du café, et puis non, ça va pas, quoi. Et puis d'un autre côté, Mike Ross qui lui s'énerve parce que autre inconséquence de dans l'esprit de Turing, tout est mathématique pour lui, et le frère de Mike Ross dans la pièce est mort en 1943, Or, Turing a décrypté l'énigme en 1942. Donc à partir de 1942, il y a eu un choix qui a été fait de laisser se faire torpiller des navires pour ne pas éveiller les soupçons des Allemands. Donc c'était très très lourd. Winston Churchill d'ailleurs tenait à être au courant de chaque chose quand il disait c'est de...
Et de l'arbitrage qui était fait pour intervenir sur tel ou tel...
Ouais, exactement. Et c'est terrible. Et du coup, dans la pièce, il y a cette histoire donc du frère du flic qui... Et du coup, pareil, Turing en parle comme des trucs très mathématiques. Il dit qu'il fallait accepter un nombre X de pertes. Et ça, Ross, le sergent,
ne peut pas l'entendre.
Ne peut pas entendre que son frère a fait partie du nombre X de pertes, où on s'est dit, presque, Amstergram, j'exagère, hein, mais Amstergram, piqué, collégramme, bon, celui-là, on va le désinguer, et celui-là, on va le sauver. Mm-hmm. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est grâce à cette technique-là que la guerre a été gagnée, mais c'est difficile à entendre pour ce mec qui a perdu son frère dans la bataille, c'est le cas de le dire.
Évidemment.
Mais c'est vrai qu'aucun des trois n'est clairement... un salaud, et Turing, en tout cas je l'espère, n'est pas une espèce de héros, tu vois, il fallait pas tomber dans une forme d'agiographie qui aurait pu l'éloigner de nous aussi. Mmh. Oh là là, il est fragile, oh là là, il est génial, mais il est aussi...
Il n'était pas qu'un saint et un martyr, oui. Il avait aussi ses marottes, il avait aussi ses...
Ouais, et puis, regarde, est-ce que le petit lui a piqué 5 livres ou pas, ou 10, au fond, peu importe, c'est pas très très grave, hein, en vérité. Ce qui est certain, en revanche, c'est que Turing va porter plainte. Ne le dénonce pas, mais porte plainte, chipote, et ça lui retombe évidemment sur la tête. Pourquoi va-t-il porter plainte ? Est-ce qu'il ne sait pas ? Et une fois qu'il se rend compte qu'il a mis le petit doigt dans l'engrenage, à la Oscar Wilde, et, tout le monde vient lui dire, et même ce type qui a été un peu son rival, Hugh Alexander, vient lui dire, il n'y a qu'à nier. Comme on a dit à Oscar Wilde, il n'y a qu'à partir en France. Et à ce moment-là, Turing, et le flic aussi lui dit... vous avez tous les moyens que ça s'arrête. Il ne faut pas le dire. Et on voit quand même un Turing foncer la tête baissée vers son martyr et monter un peu à la croix en chantant quand même. Alors ça donne une forme de trouble aussi, parce que certes, on est dans une forme de réhabilitation, évidemment, dommage à son génie, à son courage et à sa différence. Et en même temps, je pense qu'on le perçoit et que ça peut être troublant. On voit quelqu'un qui a mille fois eu le choix d'éviter ce qui pouvait lui arriver et qui y est allé.
Il était quand même pétri d'orgueil, ce personnage.
C'est une très bonne question. Est-ce que c'est de l'orgueil ? Est-ce qu'au moment où il est allé se mettre dans les rouages de la justice, il l'a voulu, il est allé au bout, il l'a fait, il a voulu aller à la barre du tribunal, dire, en l'occurrence, penser, je ne peux pas parler d'énigma, ça m'est interdit. D'accord, je ne peux pas le dire, je ne le dirai pas, mais au moins je dirai qui je suis. Il y va, il dit qui je suis. Oui, je suis homosexuel. Au moment où il dit ça, il sent, semble-t-il, en tout cas c'est ce que j'écris, un grand poids qui lui est... Qui... Mais une fois cela fait, il a quand même un autre choix, et la vie est faite de cela, c'est la prison ou la castration chimique. Il choisit la castration chimique. Il pouvait aller 2 ans en prison, là encore, un peu à la Oscar Wilde, c'est pas rigolo... À mon avis, on aurait pu aménager. Non, la castration chimique, un traitement, il le savait. Pourquoi ? Que voulait-il expérimenter ? Est-ce qu'il voulait expérimenter sur lui le martyr ? Est-ce qu'au fond, il s'est dit, mais c'est marrant, mettre du femelle en moi, est-ce que ça va me... Pourquoi ? Pourquoi ?
Il y a quelque chose de mystique aussi.
Oui, il y a une forme de quête. Lui n'a jamais dit pourquoi il l'avait fait, mais si tu relis, si le grain ne meurt de Gide... Gide, un jour, en France, questionne Oscar Wilde et lui dit « Mais pourquoi, alors qu'il suffisait de partir en France, vous êtes allé faire 2 ans, alors lui c'était en 1900, de travaux forcés. 2 ans de travaux forcés. Wilde, c'était prison, normal, c'est vrai, sans pouvoir travailler. Bon. » Et Wilde répond, cette phrase quand même incroyable, il dit « Je trouvais que dans ma vie, il fallait qu'il se passe quelque chose. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il avait écrit « L'éventail de la divine dormir », l'importance d'être constant, de pièces brillantes et légères, et je pense qu'il est allé au martyr, à la prison, à la souffrance, pour pouvoir sortir de lui la ballade de la geôle de Reading et le De Profundis. Donc il est allé en conscience se dire, il faut que j'écrive des choses. C'est pas exactement Turing, il est allé dans une quête plutôt, à mon avis, mystique, un truc d'aller chercher ses réponses dans le glas, d'aller... Mais au fond, la pièce lève un peu les questions, mais elle n'y répond pas, parce qu'on ne le peut pas. Mais c'est là que la pièce devient plus complexe et plus profonde et plus universelle aussi, peut-être, que le simple destin d'un homme sur lequel, au fond, on ne prend pas de position, parce qu'on ne sait pas. Mais ça nous ramène aussi à nos choses, à notre rapport à la différence, subie ou exercée, et à notre rapport à l'inconnu, à la quête, au spirituel. Parce qu'au fond, cette espèce de volonté qu'il a de comprendre la nature, de déceler des codes mathématiques dans la nature.
Et la fameuse suite de Fibonacci en particulier.
Cette suite de Fibonacci en particulier, ça peut paraître très mathématique, très cartésien, mais au fond, chercher le code de la nature, c'est chercher à en comprendre la logique, donc le sens, donc la pensée, donc le penseur, donc Dieu.
Alors, je fais juste une petite aparté, un petit aparté sur ces questions mystiques et le rapport qu'on peut avoir notamment aux mathématiques, mais pas seulement. Je vous invite fortement à lire un ouvrage qui s'appelle Explorateur de l'invisible, d'un philosophe des sciences que j'ai interviewé très récemment, qui s'appelle John Stone et dont je suis le parcours depuis une vingtaine d'années. Alors, sans déflorer totalement la magie de ce spectacle, parce que je l'ai vraiment trouvé magique, enfantin, brillant, virevoltant, explosif, sensible. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de la scénographie et des partis pris de mise en scène ?
Alors, déjà, ce qui est génial à mon sens avec ce spectacle, c'est qu'il y a quelque chose malgré tout. On parle depuis tout à l'heure de sujets qui peuvent être lourds, en tout cas des sujets de société qui sont des sujets graves, et la pièce arrive à trouver une légèreté là-dedans. Ouais. C'est ça, je trouve, le tour de force de ce spectacle, qui est un divertissement qui est léger malgré tout. C'est-à-dire qu'effectivement les thèmes abordés d'autisme, de génie des mathématiques, d'homosexualité, de castration chimique, c'est des choses qui sont lourdes. Et en fait Benoît évidemment à l'écriture, Tristan à la mise en scène, et Benoît et moi, je crois, dans le jeu, avons réussi à mettre dedans le rythme, la folie, l'humour nécessaire pour que ce spectacle soit quelque chose qui est virevoltant, comme tu viens de le dire. Et donc sur la mise en place, sur la scénographie, Tristan a eu Benoît, déjà dès l'écriture, avait l'idée qu'il y ait de la vidéo. Il fallait que ce soit une pièce qui parle d'histoire et où on voit des choses. Et donc Tristan a eu cette idée de rétro-projeter de la vidéo, parce que on sait bien que la vidéo contre acteur, c'est vidéo qui gagne, quoi. Il faut arriver à trouver le bon dosage. Et là, le dosage est parfaitement trouvé, parce que c'est une vidéo qui nous soutient, qui est derrière nous, qui est comme un décor. Et qui apporte
beaucoup. Pour moi, c'est une trame de fond, en fait, et qui évite à la pièce d'être par trop didactique sur la dimension historique. Et ça se suffit soi-même, les mécanismes, les rouages de la machine, quelques images de la Seconde Guerre mondiale, etc. Et ça plante le décor. Et justement, ça autorise, je pense, les comédiens à se focaliser sur l'essence même de la pièce, à savoir les rapports humains et leurs sentiments.
C'est vrai qu'on a été surpris, je dois dire. On s'est retrouvé par des contraintes de production à monter le spectacle en banlieue parisienne, en résidence, comme on dit, et à faire des représentations, la première même, scolaire, mais collège et lycée. Et alors là, on s'est dit quand même, Alan Turing, machin, ça a été incroyable. Les collégiens n'ont pas moufté pendant une heure et demie, et on a eu un beau plateau de séances de questions-réponses géniales avec eux. Après, donc, on voit du public de tous âges, un peu de tout style, entrer dans cette pièce par différentes portes. La porte, peut-être que les enfants sont à la fois fascinés par ce côté gamin, par son espèce de rire absurde, son côté décalé, drôle, et aussi par l'aspect technologique, tiens, d'où vient l'ordinateur. On voit d'autres personnes qui arrivent là plus par intérêt historique, la Seconde Guerre mondiale, comment ce fameux virage stratégique a été pris. Il y en a d'autres qui viennent évidemment plus sur l'aspect humain, le social, le gay, tout ça. Donc au fond, ce personnage a 1000 portes comme ça, et les gens entrent par celles qu'ils veulent, et ressortent d'ailleurs par celles qu'ils veulent. Et ça, c'est vrai que c'est une forme de...
Bienvenue au Théâtre Michel.
Ça, c'est un truc qui est fort, parce que ce sujet, il est vaste. Et à la fois, on raconte cette vie-là, je pense, avec une vraie rigueur, et puis en même temps, ça évoque plein de choses, plein de questions. Il y a des degrés de lecture différents. Les gens d'ailleurs lisent la pièce de façon à des degrés très différents. Certains vont rester plus près d'un polar qui est réel.
Et s'en éteint aussi.
Et s'en éteint avec un suspense. Est-ce qu'il va craquer le code? Oui, mais est-ce qu'il va craquer lui-même dans cette enquête que mène le Mike Ross, qui est quand même le personnage fil rouge le plus présent des trois? Voilà, il y a un côté vraiment polar historique, et puis il y a aussi un côté un peu polar métaphysique, et un côté des espèces de degrés de lecture. Moi, j'adore Umberto Eco, et j'ai aucune prétention à lui ressembler, mais voilà, c'est chouette quand il y a, et chez Umberto Eco notamment, il y a toujours une dimension aussi enfantine, ludique. Donc le spectacle, il est profond et ludique, et ça, c'est. Et la scénographie, tout en parler, je crois, est vraiment hyper à l'image de ça.
Et tout concourt à ça, la musique aussi.
Et la musique.
De Romain Trouillet, donc les vidéos, c'est Mathias Delfaux qui fait ça, les lumières de Nichelet. Et la musique de Romain Trouillet est magnifique, parce qu'il y a quelque chose comme ça qui nous emporte, comme ça. Et tout vraiment, je disais tout à l'heure qu'il y a des bonnes fées qui sont penchées sur le berceau de Turing. Et on a beaucoup de chance, et c'est vrai que tout a concouru à faire cette espèce d'objet théâtral un peu, c'est très prétentieux ce que je vais dire, mais un peu parfait. Moi, je trouve que et puis voilà, genre Benoît et moi, on a tous les deux fait plein de spectacles. Il y a parfois des spectacles dont on sait que bon, ça va plus ou moins plaire à telle ou telle personne. Là, c'est vrai qu'on va pas faire de la fausse modestie sur le fait qu'on est heureux et fier de pouvoir le présenter à vraiment tout le monde. Ça plaît vraiment ça peut plaire à tout le monde. Et il se trouve que pour l'instant, ça plaît à tout le monde, donc on est bien heureux.
Alors justement, pour terminer cette interview, on va passer aux choses un peu pratico-pratiques. Le succès ne se dément pas, en tout cas en ce démarrage de saison. Et ce qui va vous amener à jouer la pièce au moins jusqu'au 30 juin, c'est ça?
Alors, pour l'instant, les réservations sont ouvertes jusqu'au fête, jusqu'au 31 décembre.
Ouais.
Ça, c'est un fait avéré et vérifiable. Il semblerait qu'on va aller au-delà. Et ce qui est aussi avéré et vérifiable, c'est qu'on va refaire Avignon l'été prochain.
Mm-hmm.
Et nous allons d'ores et déjà partir en tournée à l'automne 2019 jusqu'au printemps 2020 et faire une tournée qui s'est faite sur la création, sur Avignon, qui est vraiment incroyable, parce qu'on va sillonner la France, la Belgique et la Suisse, mais on va aussi aller défendre le spectacle et par là même parler de Turing à Beyrouth, à Nouméa, à Tahiti, à La Réunion, aux États-Unis, à Los Angeles, à San Francisco, à New York. Voilà, donc c'est incroyable, et ça aussi c'est une fierté, parce que quand même, avec notre machine, notre vidéoprojecteur et nous-mêmes, j'allais dire une expression, mais qui on va aller quand même porter cette histoire qui déjà est diffusée dans le monde à travers ce film dont on parlait au début de l'interview. Mais au-delà de Turing, une autre vérité qui, je pense, peut se vérifier avec la machine de Turing, c'est que ça vaut le coup de faire du théâtre, parce que bien sûr que les moyens sont différents, mais la présence du public ensemble devant des acteurs incarnés ici et maintenant, cette espèce d'émotion vécue collectivement une fois et qui ne sera jamais la même le lendemain,
c'est autre chose.
C'est autre chose. Et ça apporte un regard complémentaire, différent. Tu l'as dit toi-même en préambule, tu as vu le film, tu l'as adoré, et là tu as vu quelque chose qu'on peut trouver mieux, moins bien, ça n'a aucune importance.
Moi je ne hiérarchise absolument pas les choses, ça n'a aucune espèce d'intérêt, mais les deux sont extrêmement complémentaires. Et je recommande d'ailleurs chaudement aux gens qui auront vu la pièce de voir le film ensuite,
et
inversement. Moi j'ai découvert le film avant de voir la pièce, bien évidemment. Mais on peut très bien faire l'inverse. Et Nicolas, qui m'accompagnait, mon compagnon, va découvrir le film. Il a très envie de le voir aussi. Donc c'est au Théâtre Michel. Ça se joue tous les jours, sauf...
Du mardi au samedi à 21h, le dimanche à 16h.
Et pendant les vacances scolaires, une matinée supplémentaire le samedi à 17h.
À 17h le samedi.
Super.
On jouera aussi les lundis 24 décembre et lundi 31 décembre. Donc si vous voulez passer les fêtes avec nous, c'est possible.
Ou offrir une place en cadeau.
Absolument.
Quel beau cadeau.
Ouais. Quel beau cadeau. Merci à Marie et Benoît pour cette interview. Au plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Tout ça sur un fond musical, c'est trop.